Chapitre 8. Il était écrit que ce loisillon aurait toutes les chances, même de mourir à temps. 8 jours plus tard, les salons fermés, Paris dispersé, la chambre, l'institut en vacances, quelques délégués des sociétés nombreuses, dont il fut président ou secrétaire, auraient suivi ses funérailles derrière les coureurs de jetons de l'Académie, rien de plus. Mais, industrieux par-delà la vie, il partait juste à l'heure, la veille du Grand Prix, choisissant une semaine toute blanche, sans crime, ni duel, ni procès célèbre, ni incident politique, où l'enterrement à fracas du secrétaire perpétuel serait l'unique distraction de Paris. Pour midi, la messe noire, et bien avant l'heure du monde énorme, affluait autour de Saint-Germain-des-Prés. La circulation interdite, les seules voitures d'invités ayant droit d'arriver sur la place agrandie, bordée d'un célèbre sévère cordon de sergents de ville espacés en tirailleurs. Ce qu'était l'oisillon, ce qu'il avait fait dans ses 70 ans de séjour parmi les hommes, la signification de cette majuscule brodée d'argent sur la haute teinture sombre, bien peu la savait dans cette foule uniquement impressionnée par ce déploiement de police, tant d'espace laissé aux morts, et toujours les distances et du large et du vide pour exprimer le respect et la grandeur. Le bruit ayant connu qu'on verrait des actrices, des gens célèbres, de loin la baladerie parisienne mettait des noms sur des visages reconnus, se groupant et causant devant l'église. C'est là, sous le porche drapé de noir, qu'il fallait entendre l'oraison funèbre de l'oisillon. La vraie, oh non pas celle qui serait prononcée tout à l'heure à Montparnasse, et le vrai feuilleton sur l'herbe et sur l'homme, bien différent des articles préparés pour les journaux le lendemain. L'œuvre, un voyage au vol d'Andorre, et 2 rapports édités par l'Imprimerie nationale du temps où l'oisillon était surintendant des beaux-arts. L'homme, un type d'avoué retors, plat, piteux, le dos courtisan, un geste perpétuel de s'excuser, de demander grâce, grâce pour ses croix, pour ses palmes, son rang dans cette académie où sa rouerie d'homme d'affaires servait d'agent de fusion entre tant d'éléments divers à aucun desquels on aurait pu l'assimiler, grâce pour cette extraordinaire fortune, grâce pour cet avancement à la nullité, à la bassesse frétillante. On se rappelait son mot à un dîner de corps où il s'activait autour de la table une serviette au bras tout glorieux. « Quel beau domestique j'aurais fait !» Oh, juste épitaphe pour sa tombe. Et tandis qu'on philosophait sur le rien de cette existence, il triomphait ce rien jusque dans la mort. Les équipages se succédaient devant l'église. Les longues livides brunes, bleues de la valetaille, couraient, s'envolaient, se courbaient, balayaient le parvis au fracas luxueux des portières et des marchepieds. Les groupes de journalistes s'écartaient respectueusement devant la duchesse Padovani à la haute et fière démarche. Madame Ancelin, fleurie dans ses crêpes de deuil, Madame Evisa, dont les yeux longs flambaient sous le vide à faire retourner un agent des mœurs, toute la congrégation des dames de l'Académie, ses ferventes, ses dévotes, venues là moins pour honorer la mémoire de feu l'oisillon que pour contempler leurs idoles, ces immortels fabriqués, pétris de leurs petites mains à droite, vrais ouvrages de femmes où elles avaient mis leur force inemployée d'orgueil, d'ambition, de ruse, de volonté. Des actrices s'y joignaient, sous prétexte de je ne sais quelle orphelinat dramatique présidée par le défunt, témoignant en réalité ce prodigieux besoin d'un être qui les brûle toutes. Épleurées et tragiques, on pouvait les prendre pour de proches parentes. Et tout à coup, une voiture s'arrête, dépose des voiles noires, agitées, perdues, une douleur qui fait mal à voir. L'épouse, cette fois? Non, non, Marguerite Auger, la belle actrice de drame, dont l'apparition soulève aux quatre coins de la place une longue rumeur des bousculades curieuses. Un journaliste s'élance du porche au devant d'elle, presse ses mains, la soutient, l'encourage. Oui, vous avez raison, je serai forte. Et ses larmes bues, renfoncées à coups de mouchoir, elle entre ou plutôt fait son entrée dans la grande nef obscure que des cierges pointillent et tout ouvriront, tombe à genoux sur un prie-dieu, côté des dames, s'y prostre, s'y abîme, puis, relevée, toute dolente, demande à une camarade près d'elle « Qu'est-ce qu'on a fait au vaudeville hier ?»« 4002 !» répond l'ami du même ton de catastrophe. Perdue dans la foule à l'extrémité de la place, Abel de Frédet entendait autour de lui « Marguerite, c'est Marguerite !»« Ah, elle est bien entrée !» Mais sa petite taille le gênait et il essayait vainement de se frayer un passage quand une main lui frappa l'épaule. « Encore à Paris ? Ah, mais la pauvre sœur ne doit pas être contente !» En même temps, Védrine l'entraînait et, ramant de ses coudes robustes, coupant le flot qu'il dominait de toute la tête. « La famille, messieurs !» Il amenait jusqu'au premier rang le provincial enchanté de la rencontre, un peu confus tout de même, car le sculpteur parlait haut, librement, à son habitude. « Ah, ce vénard de l'Oisillon ! Autant de monde que Béranger ! Voilà qui doit donner du cœur au vent dans la jeunesse !» Tout à coup, voyant Frédet se découvrir à l'apparition du cortège, « Qu'as-tu donc de changé ? Tourne-toi ! Mais malheureux, mais tu ressembles à Louis-Philippe ! » La moustache abattue, coiffée en toupet, sa bonne figure rougeaude et eût épanouie entre les favoris grisonnants, le poète redressait toute sa petite personne avec une raideur cérémonieuse. Et Védrine riant, « Ah, ah, je comprends !»« La tête pour les ducs, pour Chantilly !»« Ça te tient toujours, alors, l'Académie ?»« Mais regarde donc cette mascarade !» Sous le soleil, dans le large espace réservé, l'effet était abominable. Derrière le corbillard des membres du bureau, qu'une féroce gageure semblait avoir choisi parmi les plus ridicules vieillards de l'Institut, et qu'en laidissait encore le costume dessiné par David, l'habit à broderie verte, le chapeau à la française, l'épée de gala battant des jambes difformes que David n'avait certainement pas prévues. Gazan venait le premier, le chapeau de travers sur les inégalités de son crâne, le vert végétal de l'habit accentuant encore la graisse terreuse, squameuse de son masque proboscidien, et près de lui le sinistre, long, lariboire, ses marbrures violettes, sa bouche tordue de guignol hémiplégique, cachait ses palmes sous un pardessus trop court, laissant voir un bout d'épée, les basques du frac qui, avec les pointes de son chapeau, lui donnaient l'air d'un employé des pompes funèbres, bien moins distingué, certainement, que l'appariteur à canne d'ébène en marche devant le bureau. D'autres suivaient, astiréus, des minières, tous gênés, honteux, ayant conscience et s'excusant par leur humble contenance du grotesque de ces défroques acceptables sous la lumière haute, refroidie et pour ainsi dire historique de la coupole, mais en pleine vie, en pleine rue, faisant sourire comme une exhibition de macaques. Vrai, mais c'est alors jeter une poignée de noisettes pour les voir courir à quatre pattes. Mais Freddy n'entendait pas cette nouvelle impertinence de son compromettant compagnon. Il s'esquivait, se mêlait au cortège et pénétrait dans l'église entre deux files de soldats de fusils renversés. Au fond, la mort de Louison lui causait une joie vive. Il ne l'avait jamais vue ni connue, il ne pouvait l'aimer à travers son œuvre, cette œuvre n'existant pas. Et la seule reconnaissance qu'il lui garderait, c'était justement cette mort, ce fauteuil vacant à point pour sa candidature. Malgré tout, l'appareil funèbre dont les vieux Parisiens se blasent par habitude, cette haie de soldats, le sac au dos, les fusils tombant sur les dalles d'un saoul coup de crosse au commandement d'un sacré petit officier, très jeune, pas commode, la jugulaire au menton, dont cet enterrement devait être la première affaire. Surtout la musique noire, les tambours voilés, le saisir d'un grand respect ému. Et comme toujours, quand un sentiment vif le poignait, des rimes se présentèrent. Même cela commençait très bien. Une large et belle image sur l'espèce de trouble, d'angoisse nerveuse, d'éclipse intellectuelle que fait dans l'atmosphère d'un pays la disparition d'un de ses grands hommes. Mais il s'interrompit pour offrir une place à D'Anjou, qui, venu très en retard, s'avançait au milieu de chuchotements, de regards féminins, promenant sa tête orgueilleuse et dure avec ce geste habituel qu'il a de passer la main là-dessus, sans doute pour s'assurer que son postiche est toujours en place. Bon, « il ne m'a pas reconnu, » pensa Freinet, vexé de l'écrasant regard dont l'académicien repoussa dans le rang de ce siro qui se permettait de lui faire signe. Mes favoris, probablement. Et, distrait de ses vers, le candidat se mit à ruminer son plan d'attaque, ses visites, la lettre officielle pour le secrétaire perpétuel. Mais au fait, il était mort, le perpétuel. Allait-on nommer Astier-Réhu avant les vacances? Et l'élection, pour quand? Sa préoccupation descendit jusqu'aux détails, à l'habit. Prendrait-il le tailleur d'Astier, décidément? Et ce tailleur fournissait-il aussi le chapeau et l'épée? Pieyes ou domine? Une voix de théâtre admirable montait derrière l'autel. Demandait le repos pour l'oisillon, que le dieu de miséricorde semblait vouloir torturer cruellement. Car l'Église suppliait dans tous les tons, tous les registres, en soli et en chœur, « le repos, mon Dieu, qu'il dorme tranquille après tant d'agitation et d'intrigue. » À ce chant triste, irrésistible, répondaient dans la nef les sanglots des femmes, dominés par le hoquet tragique de Marguerite Auger, son terrible hoquet du 4 dans Boussidora. Tout ce deuil pénétrait le bon candidat, allait rejoindre dans son cœur d'autres deuils, d'autres tristesses. Il pensait à des parents morts, à sa sœur, une mère pour lui, condamné par tous, et le sachant, en parlant dans toutes ses lettres, hélas, vivrait-elle même jusqu'au jour du triomphe? Des larmes l'aveuglèrent, l'objet a essuyé ses yeux. C'est trop, oh, c'est trop, on ne vous croira pas, ricanait dans son oreille la grimace du gros Lavaux. Il se retourna indigné, mais la voix du jeune officier commanda furieusement « Portez armes !» Et les fusils firent claqueter leurs baïonnettes, tandis que l'orgue grondait la marche pour la mort d'un héros. Le défilé de la sortie commençait, toujours le bureau en tête, Cazan, Lariboire, Desminières, son bourgmestre Astier-Réhu. Tous très beaux maintenant, noyant dans le mystère des hautes voûtes, le vert perroquet chamarré des uniformes, Ils descendaient la nef, deux par deux, très lentement, comme à regret, vers ce grand carré de jour découpé au portail ouvert. Derrière, toute la compagnie, cédant le pas à son doyen, l'extraordinaire Jean Réhu, grandi par une longue redingote, porte en haut sa toute petite tête brune, creusée dans une oie de coco, d'un air dédaigneux et distrait, signifiant qu'il avait vu ça un nombre incalculable de fois. Et de fait, depuis 60 ans qu'il touchait les jetons de l'Académie, il avait dû en entendre de ces psalmodies, en jeter de cette eau bénite sur des catafalques glorieux. Mais si celui-là justifiait miraculeusement son titre d'immortel, le groupe d'ancêtres qu'il précédait semblait en être la bouffonne et triste parodie. Décrépits, cassés en deux, déjetés comme deux vieux arbres à fruits, les pieds de plomb, les jambes molles, des yeux clignotants de bêtes de nuit, ce qu'on ne soutenait pas s'en allait les mains tintonnantes, et leurs noms, murmurés par la foule, évoquaient des œuvres mortes, oubliées depuis longtemps. À côté de ces revenants, de ces permissionnaires du Père Lachaise, comme les appelait un malin de l'escorte, les autres académiciens semblaient jeunes. Ils se campaient, bombaient leurs torses sous des regards extasiés de femmes, les brûlant à travers les voiles noires, l'entassement de la foule, les shakos et les sacs des militaires ahuris. Cette fois encore, le salut de Freinet à deux ou trois futurs collègues fut repoussé de froid et méprisant sourire, comme en évoquant ses rêves où vos meilleurs amis ne vous reconnaissent plus. Mais il n'eut pas le temps de s'en attrister, pris par la bousculade à deux mouvements qui agitaient vers le haut et vers la sortie. « Eh bien, monsieur le vicomte, il va falloir vous remuer maintenant !» Cet avis chuchoté de l'aimable Picheral au milieu de la rumeur, de l'enchevêtrement des chaises, remit le sang en route dans les veines du candidat. Mais comme il passait devant le catafalque, d'Anjou, lui tendant le goupillon, murmura sans le regarder. « Surtout, ne bougez plus, laissez faire !» Il en eut les jambes fracassées. « Remuez-vous, mais ne bougez plus !» Quel avis suivre et croire le malheur, le meilleur. Son maître Astier le lui dirait sans doute. Il essaya de le rejoindre dehors. Cela n'était pas chose commode avec l'encombrement du parvis pendant que se classait le cortège et qu'on hissait le cercueil écrasé d'innombrables couronnes. Rien d'animé comme cette sortie d'enterrement dans la lumière d'un beau jour. Des saluts, des propos mondains, tout à fait étrangers à la cérémonie funèbre, et sur les visages, l'allègement, la revanche à prendre de cette grandeur d'immobilité traversée de champs lugubres. Les projets, les rendez-vous échangés marquaient la vie impatiente et recommençaient vite après ce court arrêt, rejetaient le pauvre oisillon bien loin dans ce passé dont il faisait partie désormais. « Aux Français, ce soir, n'oubliez pas, le dernier mardi !» milodait Madame Ancelin et Paul au gros laveau. « Allez-vous jusqu'au bout ?»« Non, 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 je reconduis Madame Evisa. »« Alors à 6 heures chez Kaiser, ça semblera blond après les discours. » Les voitures de deuil s'approchaient à la file, pendant que des coupés partirent au grand trot. Du monde se penchait à toutes les fenêtres de la place, et vers le boulevard Saint-Germain, des gens, debout sur les tramways arrêtés, alignaient des têtes au-dessus des têtes, coupaient le ciel bleu de fils sombres. Freinet, ébloui de soleil, son chapeau en abat-jour, regardait cette foule à perte de vue, se sentait très fier, reportant à l'Académie cette gloire posthume qu'on ne pouvait attribuer vraiment à l'auteur du voyage au Val d'Andorre, et en même temps il avait le chagrin de constater que les chers futurs collègues le tenaient visiblement à distance, absorbés quand ils s'approchaient ou se détournant, se groupant contre l'intrus, ceux-mêmes qui l'avant-veille chez voisin l'attiraient. Quand serez-vous des nôtres? Mais la plus dure de toutes fut la défection d'Astiréu. Quel malheur, cher maître, vint lui dire le candidat, s'apitoyant par contenance, pour parler, sentir une sympathie. L'autre, à côté du corbillard, sans reprendre, feuilletait le discours qu'il prononcerait tout à l'heure. Frédéric répéta. Ah oui, quel malheur! Mon cher Frédéric, vous êtes indécent, prononça le maître tout haut, très brutal. Et le temps d'un sévère coup de mâchoire, il se remit à sa lecture. Indécent, pourquoi? Le malheureux, le geste instinctif d'assurer ses boutons, s'examina jusqu'à l'extrémité des bocs avec inquiétude, sans pouvoir s'expliquer ses paroles réprobatrices. Mais que se passait-il? Qu'avait-il fait? Ce fut un étourdissement de quelques minutes. Il voyait vaguement le corbillard s'ébranler sous sa vacillante pyramide de fleurs, des habits verts aux quatre coins, d'autres habits verts derrière, puis toute la compagnie, et sitôt après elle, mais sérieusement distancé, un groupe où lui-même se trouva mêlé, poussé, sans savoir comment. Des jeunes hommes, des vieux, tous horriblement tristes et découragés, au milieu du front la même ride profonde de l'idée fixe, aux yeux le même regard haineux et méfiant du voisin. Quand, remis de son malaise, il put mettre des noms sur ces personnages, il reconnut la figure fanée, déçue du père Moser, l'éternel candidat, l'honnête mine de Dalzon, l'homme au livre, le retoqué des dernières élections, et de Saville et Guérineau. La remorque, parbleu, ce dont l'Académie ne s'occupe plus, qu'elle laisse filer au sillage de la barque glorieuse, les ayant amorcés d'un fer solide. Tous, ils étaient tous là, les pauvres poissons noyés, les uns morts et sous l'eau, d'autres se débattant encore, roulant un regard douloureux et goulu, qui en veut en demande, en voudra toujours. Et pendant qu'il se jurait d'éviter le même sort, Abel de Frédet suivait la morse, lui aussi, tirait sur l'hameçon, déjà trop bien accroché pour pouvoir se reprendre. Au loin, sur la voie déblayée à l'étendue du cortège, des roulements voilés alternaient avec des sonneries de trompettes, ameutant tout au long les passants du trottoir et les curieux des fenêtres. Puis la musique reprenait à longs cris la marche pour la mort d'un héros. Et devant ces grandioses honneurs, ces funérailles nationales, cette orgueilleuse révolte de l'homme humilié, vaincu par la mort, mais haussant et parant sa défaite, il faisait beau songer que tout cela, c'était pour Loisillon, secrétaire perpétuel de l'Académie française, c'est-à-dire rien, le dessous de rien. Chapitre 9. Tous les jours, entre 4 et 6, plus tôt ou plus tard, selon la saison, Paul Astier venait prendre sa douche à l'hydrothérapie Kaiser, en haut du faubourg Saint-Germain-d'Honoré. 20 minutes de fleurets, de boxe ou de bâton, puis le jet froid, le bain de piscine, la petite station en sortant chez la fleuriste de la rue du Cirque pour se faire coudre un œillet à la boutonnière, et la réaction jusqu'à l'arc de l'étoile, Stène et le phaéton suivant au ras du trottoir. Ensuite un tour aux acacias, où Paul montrait un teint clair, une peau de femme à lever toutes les femmes, et qu'il devait à ses habitudes d'hygiène chic. Cette séance chez Kaiser lui épargnait en outre la lecture des journaux, par les potins de cabine à cabine, ou sur les divans de la salle d'armes, en veste de tir, en peignoir de flanelle, même à la porte du docteur quand on attendait son tour de douche. Des cercles, des salons, de la chambre, de la bourse ou du palais, les nouvelles de la journée s'annonçaient là, librement, à voix haute, dans le froissement des épées et des cannes, les appels aux garçons, les grandes claques en battoir des mains sur la chair nue, le cliquetis des fauteuils à roulettes pour rhumatisants, les lourds plongeons qui s'ébrouaient dans la piscine aux voûtes sonores, et, dominant tous les bruits d'eau brisée, jaillit la voix du bon docteur Kaiser debout sur sa tribune, et ce mot revenant toujours comme un refrain « Tournez-vous !» Ce jour-là, Paul Astier se tournait avec délice sous la pluie bienfaisante. Il laissait la migraine et la poussière de sa corvée et les funèbres ronrons des regrets académiques en style Astier réu. Les reins lui mesuraient ses heures, la main glacée de l'oisillon épuisait la coupe du bonheur. « Oh papa, oh cher maître !» Il en fallait de l'eau en pluie, en fouet, en cascade, pour nettoyer ce noir fatras. Encore ruisselant, il croisa un grand corps qui remontait de la piscine. Il faisait un bonjour grelottant de la tête, courbée en deux sous un large bonnet en caoutchouc, couvrant le crâne et une partie de la figure. Cette maigreur livide, cette raide démarche contracturée, il crut à de ces pauvres névropathes habitués de chez Kaiser, dont les muettes apparitions d'oiseaux de nuit, lorsqu'ils venaient se peser à la bascule dans la salle d'armes, faisaient un tel contraste au rire de santé et de vigueur débordante. Puis la courbe méprisante de ce grand nez, ses plis de dégoût tirant la bouche, lui rappelèrent vaguement un visage de la société. Et dans sa cabine, pendant que le garçon baigneur lui étrillait la peau, il demanda « Mais qui donc m'a salué, Raymond ?»« Mais c'est le prince Datis, monsieur !» fit Raymond avec la fierté du peuple à prononcer ce mot « le prince ». « Où il vient à la douche depuis quelque temps, toujours le matin. Aujourd'hui, il s'est retardé, rapport à un enterrement qu'il a dit à Joseph. » La porte de la cabine entr'ouverte pendant ce colloque laissait voir dans celle en face, sur le côté père du couloir, le gros laveau assis, tout nu d'un gras blafard et difforme, en train de s'attacher au-dessus du genou, avec des jarretières à boucle, de longs bas de femme ou d'ecclésiastique. Dites donc, Paul, vous avez vu Samy qui vient se donner des forces ? Il clignait de l'œil comiquement. Des forces ? Ben oui, il se marie dans 15 jours, savez bien. Et le pauvre garçon, pour s'assurer les reins, s'est mis bravement à l'eau froide et aux pointes de feu. Et l'ambassade, quand ? Mais tout de suite, la princesse est partie devant, ils se marieront là-bas. Paul Astier eut l'instinct d'un désastre. La princesse, mais qui épouse-t-il donc ? D'où sortez-vous ? Le bruit de Paris depuis 2 jours. Colette, pardi, l'inconsolable Colette. C'est la tête de la duchesse que je voudrais voir. À l'oisillon, oh, elle s'est très bien tenue. Mais sans lever son voile, sans un mot à personne. Dur à avaler, dame. Songez donc qu'il y ait encore, nous cherchons ensemble des étoffes pour la chambre de l'infidèle à Pétersbourg. Il bavardait de sa voix grasse et méchante de portière mondaine, tout en achevant de boucler ses jarretières. Et pour accompagner la féroce histoire, on entendait à 2 cabines plus loin, dans un sonore roulement de claques à même, le prince encourageant le garçon de douche. « Plus fort, Joseph, plus fort, n'ayez pas peur !» Alors il en prenait défense, le bandit. Paul Astier, qui, au premier mot de Lavaux, avait franchi le couloir pour mieux entendre, fut pris d'une envie folle, enfoncer d'un coup de pied la porte du prince, sauter dessus, s'expliquer brutalement avec ce misérable qui lui enlevait la fortune des mains. Tout à coup, il se vit nu, trouva sa colère inopportune, et rentra s'habiller, se calmer un peu, comprenant qu'il devait avant tout causer avec sa mère, savoir exactement où en étaient les choses. Par exception, sa boutonnière resta vide ce soir-là, et pendant que des yeux de femmes, au mouvement désœuvré des voitures en file, cherchaient le joli jeune homme dans l'allée habituelle, il roulait vivement vers la rue de Beaune. Corentine le reçut, les bras nus, en souillon, profitant de l'absence de madame pour faire un grand savonnage. « Où dîne ma mère, savez-vous ?»« Non. » Non, madame ne lui avait rien dit. Même monsieur était là-haut à fourrager dans ses papiers. Le petit escalier des archives criait sous le pas lourd de Léonard Astier. « C'est toi, Paul ?» Le demi-jour du couloir, le trouble où il était lui-même, empêchèrent le garçon de remarquer l'extraordinaire aspect de son père et l'égarement de sa voix pour répondre au « Comment va le maître ? Maman n'est pas là ?»« Non, elle dîne chez madame Ancelin, qui l'emmène aux Français. Dans la soirée, j'irai les rejoindre. » Ensuite, le père et le fils n'eurent plus rien à se dire. Deux étrangers en présence, des étrangers de race ennemie. Aujourd'hui pourtant, Paul Astier, dans son impatience, aurait bien demandé à Léonard s'il savait quelque chose de ce mariage, mais tout de suite. Bon, il est trop bête, maman n'a jamais dû en parler devant lui. Le père, lui aussi, angoissé d'une question qu'il voulait faire, le rappela d'un air gêné. Écoute donc, Paul, figure-toi qu'il me manque. Je suis en train de chercher. De chercher ? Astier hésita une seconde, regardant de tout près la charmante figure, dont l'expression n'était jamais parfaitement franche à cause de la déviation du nez. Puis l'accent bourru est triste. « Oh non, non, rien, c'est inutile, tu peux t'en aller. » Il restait à Paul Astier de rejoindre sa mère au théâtre, dans la loge Ancelin. C'était 2 ou 3 heures à tuer. Il renvoya sa voiture en recommandant à Stern de venir l'habiller au cercle, puis se mit en route à tout petits pas, dans un délicat Paris crépusculaire, où les arbustes en boule du parterre des Tuileries s'allumaient de couleurs vives à mesure que le ciel s'assombrissait. Une incertitude délicieuse pour les rêveurs et les combineurs d'affaires. Les voitures diminuent, des ombres se hâtent, vous frôlent, on peut suivre son idée sans distraction. Et le jeune ambitieux songeait lucidement, le sang-froid revenu. Il songeait comme Napoléon aux dernières heures de Waterloo. Bataille gagnée tout le jour, puis le soir, la déroute. Pourquoi ? Quelle faute commise ? Il remettait en place les pièces de l'échiquier, cherchait sans comprendre. Une imprudence peut-être d'être resté 2 jours sans la voir ? Mais n'était-ce pas l'élémentaire tactique ? Après l'épisode du père Lachaise, de laisser la femme ruminer son petit remords. Comment se douter d'une fuite aussi brusque ? Subitement, cet espoir lui vint, connaissant la princesse, Oisillon changeant d'idée comme de perchoir, qu'elle n'était pas encore partie, qu'il allait la trouver au milieu de ses préparatifs, désolée, incertaine, demandant au portrait d'Herbert « Conseille-moi !» et qu'il la reprendrait d'une étreinte. Car maintenant il comprenait et suivait dans cette petite tête toutes les péripéties de son roman. Il se fit conduire rue de Courcelles. plus personne. La princesse partit en voyage le matin même, lui dit-on. Pris d'un affreux découragement, il rentra chez lui pour n'être pas obligé au cercle de parler et de répondre. Sa grande baraque moyenâgeuse, dressant sa face de tour de la fin, toute bordée d'écriteaux, acheva de lui serrer le cœur par le tas de notes en retard qu'il lui rappelait. Puis la rentrée à tâtons dans cette odeur d'oignons frits qui remplissait tout l'hôtel. Le petit domestique rageur se fabriquant les soirs de dîner au cercle un faubourien miroton. Un peu de jour traînait encore dans l'atelier, et Paul, jeté sur un divan, tout en se demandant quelle déveine déjouait sa prudence et ses combinaisons les plus adroites, s'endormit pour 2 heures après lesquelles il se réveilla transformé. De même que la mémoire s'aiguise au sommeil du corps, ses facultés de volonté et l'intrigue n'avaient cessé d'agir pendant ce court repos. Il y avait reconquis un plan nouveau, et cette froide et ferme résolution, autrement rare chez nos jeunes Français que la bravoure armée. Prestement habillé, lesté de 2 œufs et d'une tasse de thé, avec une légère tiédeur de petit fer dans la barbe et les moustaches, quand il jeta au contrôle du théâtre français le nom de Madame Ancelin, le plus subtil observateur n'aurait pu soupçonner dans ce parfait mondain la moindre préoccupation, ni ce qui renfermait ce joli meuble de salon, laqué noir et blanc, si bien scellé. Le culte rendu par Madame Ancelin à la littérature officielle avait 2 temples, l'Académie française et la Comédie française. Mais le premier n'étant qu'irrégulièrement ouvert à la ferveur des fidèles, elle se rabattait sur l'autre dont elle suivait ponctuellement les offices, ne manquant jamais une première, grande ou petite, ni les mardis de l'abonnement. Et ne lisant que les livres à l'estampille de l'Académie, les artistes de la Comédie étaient les seuls qu'elle écoutât fervemment, avec des expressions attendries ou frénétiques qui éclataient dès le contrôle, et les 2 grands bénitiers de marbre blanc que l'imagination de la bonne dame avait dressés à l'entrée de la maison de Molière, devant les statues de Rachel et de Talma. Est-ce tenu ? Quels huissiers ! Quel théâtre ! Ses petits bras écartés, en gestes courts, son souffle haletant de grosses dames, remplissaient le couloir d'une expansive joie turbulente qui faisait courir dans toutes les loges. « Oh, voilà Madame Ancelin !» Au mardi, surtout, l'indifférence de la salle très mondaine contrastait avec l'avant-scène où roucoulait, se pâmait, le corps hors la loge, ce bon gros pigeon aux yeux roses ramageant tout haut. « Oh, ce Coquelin ! Oh, ce Delaunay ! Quelle jeunesse ! Quel théâtre ! » Ne souffrant pas qu'on parlât d'autre chose. Et aux entr'actes, accueillant les visites par des cris d'admiration sur le génie de l'auteur académicien, les grâces de l'actrice sociétaire. À l'entrée de Paul Astier, le rideau était levé et, connaissant les rites du culte, l'absolue défense de parler alors, de saluer, de remuer un fauteuil, il attendit immobile dans le petit salon, séparé par une marge de l'avant-scène où Madame Ancelin s'extasiait entre Madame Astier et Madame Evisa. D'Anjou et de Fredet assis derrière elle avec des têtes de captifs. À ce claquement si particulier des fermetures de loge, et que suivit un chut foudroyant pour l'intrus qui troublait l'office, la mère à demi détournée tressaillit en voyant son Paul. Que se passait-il ? Et qu'avait-il de si pressé, de si grave à lui dire, pour venir jusque-là, dans ce guépier d'ennui, vu qu'il ne s'ennuyait jamais qu'avec un but ? Sans doute encore l'argent, l'horrible argent. Heureusement, elle en aurait bientôt. Le mariage de Samy les ferait riches. Désireuse d'aller à lui, de le rassurer d'une bonne nouvelle qu'il ignorait peut-être, elle devait rester en place, regarder la scène, faire chorus avec la dame. « Oh, ce Coquelin, oh, ce Delaunay, oh, ah, oh !» Dur supplice pour elle, cette attente. Et pour Paul aussi, qui ne voyait rien que la barre éclatante et chaude de la rampe, et reflétée dans le panneau de glace du côté, une partie de la salle, fauteuils, loges et parterres, des rangées de physionomies, d'atours, de chapeaux, comme noyés dans une gaze bleuâtre, avec l'aspect décoloré, fantomatique, des objets entrevus sous l'eau. À l'entracte, corvée des compliments. « Et la robe de Reichenberg, avez-vous vu, monsieur Paul ? Ce tablier de jais rose, cette quille en ruban, avez-vous vu ? Oh non, vraiment, on ne s'habille qu'ici !» Des visites arrivaient. La mère put ravoir son fils, l'entraîner sur le divan, et là, parmi les boas, les sorties, il parlait bas, de tout près. « Réponds vite et net, commença-t-il. Samy se marie ?»« Oui, la duchesse le sait depuis hier, mais elle est venue quand même. C'est si orgueilleux, ces Corses. Et le nom de la Rastaquère, peux-tu le dire maintenant ?»« Mais Colette, voyons, tu t'en doutais. Mais pas le moins du monde. Et combien auras-tu pour ça ?» Triomphante, elle murmura, « 200 000. » « Mais ça me coûte 20 000 000 à moi, tes intrigues. 20 000 000 et la femme. » Et lui broyant les poignets rageusement, il lui jeta dans la figure. « Coiffeuse !» Elle en resta suffoquée, abrutie. Lui, c'était lui, cette résistance qu'elle sentait un certain jour. Ce travail contre le sien. C'était lui le « si vous saviez » de cette petite sotte quand elle sanglotait éperdue dans ses bras. Ainsi, au bout de cette sape qu'il menait chacun de son côté vers le trésor, avec tant de ruses, de patients mystères, un dernier coup de pioche et les voilà tous deux face à face sans rien. Il ne parlait plus. Se regardant, le nez de côté, leurs yeux pareils, férocement allumés dans l'ombre, pendant le va-et-vient des visites et des conversations. Et c'est une forte discipline, allez, que cette discipline du monde, pouvant refouler en ces deux êtres les cris, les trépillements, l'envie de rugir et de massacrer dont leurs âmes étaient soulevées. Madame Astier, la première, pensa tout haut. Encore, si la princesse n'était pas partie, sa bouche se tordait de rage. Une idée à elle, ce brusque départ. On la fera revenir, dit Paul. Mais comment ? Sans répondre, il demanda. Samy est-il dans la salle ? Oh non, je ne crois pas. Où vas-tu ? Que veux-tu faire ? « Fiche-moi la paix, n'est-ce pas ? Ne te mêle de rien. T'as vraiment pas assez de veine. » Il sortit dans un flot de visiteurs que chassait la fin de l'entracte et elle reprit sa place à gauche de Madame Ancelin, aussi exaltée, aussi odorante que tout à l'heure en perpétuel état de grâce. « Oh, ce Coquelin ! Mais regardez donc, ma chère !» Ma chère était distraite, en effet. Les yeux perdus, le sourire douloureux d'une danseuse sifflée, et sous prétexte que la rampe l'aveuglait, tournait à tout instant vers la salle pour y chercher son fils. Une affaire avec le prince, peut-être, s'il est ici, et par sa faute à elle, par sa stupide maladresse. Bon, ce Delaunay, avez-vous vu ? Avez-vous vu ? Non, elle ne voyait que la loge de la duchesse, où quelqu'un venait d'entrer. La tournure élégante et jeune de son Paul. Mais c'était le petit comte Adriani au fait de la rupture, comme tout Paris, et se lançant déjà sur la piste. Jusqu'à la fin du spectacle, la mère se rongea d'angoisse, roulant mille projets confus qui se bousculaient dans sa tête avec les choses passées, des scènes qui auraient dû l'avertir. Oh, mais comment ne s'en être pas douté? La sortie enfin, mais si lente encore, des haltes à chaque pas, des saluts, des sourires, les adieux échangés. Oh, que faites-vous cet été? Venez donc tout voir à Deauville. Par les trois couloirs où l'on se presse, où les femmes achèvent de s'empaqueter, avec ce joli geste qui assure les boutons d'oreille, par le large escalier de marbre blanc au bas duquel attend la livrée, la mère, tout en causant, guette, écoute, cherche à surprendre dans la rumeur de la grande ruche mondaine qui se disperse pour des mois, un mot, une allusion à quelques scènes de corridor. Justement, voici la duchesse qui descend, fière et droite dans son long manteau blanc et or, au bras du jeune garde noble. Elle sait quel tour infâme lui a joué son ami, et les deux femmes croisent au passage un regard froid, sans expression, plus redoutable que les plus violentes engueulades de bateaux lavoirs. Elles savent maintenant comment compter l'une sur l'autre, et que tous les coups porteront, frappés aux bons endroits par des mains exercées, dans cette guerre au curare, succédant à une intimité de sœurs. Mais elles accomplissent la corvée mondaine, masquées d'un pareil sang-froid, et leurs deux haines, l'une puissante, l'autre venimeuse, peuvent se frôler, se coudoyer, sans qu'il s'en dégage une étincelle. En bas, dans la cohue des valets de pied et des jeunes clubman, Léonard, Astier, attendait pour prendre sa femme, selon sa promesse. « Ah, voilà le maître !» s'exclama la Mancelin. Et, trempant une dernière fois ses doigts dans l'eau bénite, elle en aspergeait tout le monde, le maître Astier Réhul, le maître d'Anjou, et ce coq-là et ce Delaunay. Oh ah! Léonard ne répondait pas, suivait sa femme au bras, son collet brutalement relevé à cause du grand courant d'air. Il pleuvait dehors. Madame Ancelin proposa de les reconduire, mais sans empressement, comme font les gens de la voiture, craignant de fatiguer leurs chevaux, redoutant surtout la mauvaise humeur de leur cocher, lequel est uniformément le premier cocher de Paris. D'ailleurs, le maître avait un fiacre. Il coupa court aux affabilités de la dame qui ramageait. « Oui, oui, on vous connaît, pour être tous deux seuls. Oh, le reménage !» Et par les galeries tout éclaboussées d'eau, il entraîna Madame Astier. À la fin des bals, des soirées, quand un couple mondain part en voiture, on est toujours tenté de se demander « Maintenant, que vont-ils se dire ?» Pas grand-chose la plupart du temps, car l'homme sort généralement assommé, courbaturé de ces sortes de fêtes que la femme prolonge dans le noir de la voiture par des comparaisons intimes entre sa mise, sa beauté et celle qu'elle vient de regarder, ruminant des arrangements d'intérieur ou de toilette. Cependant, la grimace, pour le moment, est tellement effrontée, l'hypocrisie de société si énorme, qu'on serait curieux d'assister à l'immédiate détente après la pause officielle, de saisir le vrai des accents, des natures, les rapports réels de ces êtres tout à coup libérés et défublés, dans ce coupé filant à travers le Paris désert, entre les reflets de ses lanternes. Pour les Astier, ses retours étaient très significatifs. Aussitôt seule, la femme quittait la déférence et l'intérêt maintenu dans le monde pour le maître, parlait raide, prenait sa revanche de son attention à écouter des histoires cent fois entendues qui l'hébétaient d'ennui. Lui, bienveillant de nature, toujours content de soi et des autres, revenait régulièrement enchanté, stupéfait chaque fois des horreurs que sa femme débitait sur la maison amie, les personnes rencontrées, allant tranquillement aux accusations les plus abominables avec cette légèreté, cette exagération inconsciente des propos qui est la dominante des relations parisiennes. Alors, pour ne pas l'exciter davantage, il se taisait, faisait le gros dos, volait un petit somme dans son coin. Ce soir-là, par exemple, Léonard Astier se carra, sans faire attention au « Prenez donc garde à ma robe » de cette voix aigre de la femme dont on chiffonne injustement. « Oh, il s'en moquait un peu de sa robe. »« On m'a volé, madame, » fit-il, et si violemment que les vitres en tremblèrent. « Oh, mon Dieu, les autographes !» Elle n'y pensait plus. En ce moment surtout, brûlée plus fort d'autres inquiétudes, et son étonnement n'eut rien de joué. Voler, oui, c'est Charles Quint, ses trois plus belles pièces. Mais déjà, sa voix perdait la violente certitude de l'attaque. Ses soupçons hésitaient devant la surprise d'Adélaïde. Elle, pourtant, s'était remise. Qui pensez-vous? Corentine lui semblait une fille sûre, à moins que Tessèdre. Mais comment supposer que cette brute? Tessèdre! Il en cria, tant la chose lui parut évidente. Sa haine l'aidant contre l'homme à la brosse, il s'expliquait le crime très bien, le suivait à la trace depuis un mot dit à table sur la valeur de ses manuscrits ramassés par Corentine, innocemment répétés. Oh, le scélérat, avait-il bien une tête de criminel? Et quelle folie de résister à ces avertissements de l'instinct! Ce n'était pas naturel, voyons, l'antipathie, la haine que lui inspirait ce frotteur, à lui, Léonard Astier, membre de l'Institut. Oh, son compte était bon, le babouin. On lui en ferait manger des galères. Mais toi, Charles Quint, oui, da. Sur le champ, avant de rentrer, il voulait porter plainte au commissaire. Elle essayait de le retenir. « Êtes-vous fou, mais le commissaire après minuit ?» Mais il s'obstinait, penchait sous la pluie sa lourde carapace pour des indications au cocher. Elle fut obligée de le tirer en arrière violemment. Hélas, excédé, sans courage pour suivre le mensonge, filer l'écoute et virer doucement, elle lâcha tout. « Ce n'est pas tes cèdres. C'est moi, là. » Puis d'une haleine, la visite à Bosse, l'argent touché, 20 000 francs qu'il lui fallait à tout prix. Le silence qui suivit fut si long qu'elle crut d'abord à une syncope, à un coup de sang. Non. Mais, pareil à l'enfant qui tombe ou se cogne, le pauvre crocodilus avait ouvert démesurément la bouche pour exploser sa colère. Pris une aspiration telle qu'il ne pouvait proférer aucun son. Et à la fin, ce fut un rugissement à remplir le carrousel que leur fiacre traversait dans les flaques d'eau. Volé, je suis volé, ma femme m'a volé pour son fils. Et son furieux délire roulait pêle-mêle avec des jurons paysans de sa montagne. À la garce, à le bigou gris. Des exclamations du répertoire, les justices, juste ciel, je suis perdu, d'Harpagon, pleurant sa cassette, et autres morceaux choisis, tant de fois lus à ses élèves. On y voyait comme en plein jour, sur la grande place, que la sortie des théâtres sillonnait en tous sens, d'omnibus, de voitures, dans les hautes lumières irradiantes des réverbères électriques. « Mais taisez-vous donc !» dit madame Astier. « Tout le monde vous connaît. Excepté-vous, madame !» Elle le crut tout près de la battre, et dans la crispation de ses nerfs, cela ne lui aurait peut-être pas déplu. Mais il s'apaisa brusquement devant la peur du scandale, jurant pour finir, sur les cendres de sa mère morte, qu'il ferait sa malle en rentrant, filerait à Sauvagnat de la belle manière, pendant que madame s'en irait avec son scélérat, son mange-tout, jouir du fruit de leur rapine. Une fois encore, la haute vieille caisse à gros clous passa brusquement de l'antichambre dans le cabinet. Quelques bûches y restaient encore du dernier hiver, mais cela n'arrêta pas l'immortel, et pendant une heure, la maison retentit du roulement des rondins de bois, de la bousculade des armoires qu'il fourrageait, entassant dans la sciure et les bouts d'écorce sèches du linge, des vêtements, des bottines, jusqu'à l'habit vert et au gilet brodé des grandes séances, délicatement enveloppé d'une serviette. Sa colère, soulagée par cet exercice, diminuait à mesure que s'emplissait la malle, et ce qu'il gardait de houle et de sourd grognement venait surtout de se sentir si faible, pris de partout, soudé, indéracinable, pendant que madame Astier, assise au bord d'un fauteuil, en déshabillé de nuit, une dentelle sur la tête, le regardait faire et murmurait dans une bâillée placide et ironique: « Voyons, Léonard, Léonard !»